notre étude sur les fruits de l'Esprit. Je n'aborderai que le sixième point aujourd'hui. Il fallait bien choisir quelque part entre ceux qui restent. Et on veut lire ce verset ensemble pour commencer. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Nous l'avons lu chaque fois au début de notre étude, prédication sur les fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit est exactement très important. Pourquoi ? Parce que notre nature humaine n'est pas capable, tout simplement pas capable, de produire ce qui est écrit dans ce texte de l'Écriture sainte. La parole éternelle de Dieu, l'exhortation divine, la prophétie biblique est incapable d'être accomplie par la nature humaine, mais la nouvelle nature en Christ peut produire, vivre dans le quotidien ce fruit qui est l'amour, la joie, la paix, etc. Un bon arbre produit de bons fruits, dira Jésus. C'est évident, tout le monde le sait. Mais notre nature humaine n'est pas un bon arbre, il faut le savoir. L'Écriture parle de notre nature déchue, de notre nature corrompue par le péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et de ce fait aussi privés de toutes ces choses qui viennent de Dieu et que Dieu voudrait produire en nous, qu'il voudrait développer et faire grandir en nous. Donc, nous avons besoin, tout d'abord, d'être greffés sur le bon arbre, tout comme le sarment doit être greffé au cep. Jésus est le cep, le vrai cep, et nous avons besoin d'être greffés sur lui pour avoir part à la sève divine, à la vie divine, car la croix est indispensable, c'est la solution indispensable pour tout être humain qui a besoin de changer de nature, qui a besoin d'être délivré de la puissance et du pouvoir du péché. Est-ce que nous pouvons dire amen à cela ? La croix, la seule solution, il faut que tu passes par la croix. Et il faut que ta chair soit crucifiée pour que la vie nouvelle puisse produire ce merveilleux fruit de l'Esprit. C'est le fruit d'un bon arbre, bien sûr, mais nous sommes tous en croissance, un fruit qui grandit. Avez-vous remarqué que ce fruit grandit chez vous ? Difficile de dire cela, hein ? Mais peut-être avez-vous remarqué que chez le voisin, ça ne grandit pas très fort, hein ? Ça, on remarque quand chez les autres, ça n'avance pas ou ça ne produit pas grand-chose. Mais je vous encourage ce matin à faire confiance au travail du Saint-Esprit, non pas dans le cœur du voisin, mais dans votre propre cœur. Le Seigneur s'occupe du voisin, s'occupe de moi ce matin. C'est moi et Dieu, il s'agit de ma vie ce matin. Et nous voulons réaliser, comme nous l'avons dit, que le fruit de l'Esprit glorifie Christ. Le fruit de l'Esprit, c'est véritablement la carte de visite. C'est vraiment le témoignage où il est dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Dieu sera glorifié si nous portons ce fruit en abondance. » Ce fruit, c'est beau, c'est magnifique, c'est tout simplement extraordinaire quand une personne est remplie de ses attributs tellement devenus, bien sûr, ils sont là, tantôt l'un, tantôt l'autre, mais quand ils sont ensemble, comme une grappe, quand ils sont vraiment cette nature, ce caractère, ce style de vie d'un chrétien, vous avez envie d'être avec lui. Vous avez envie d'être béni par cette personne. Vous avez envie d'être dans sa présence tellement le fruit glorifie le Seigneur et embellit la vie. C'est un beau témoignage pour aider les gens à croire, c'est vrai. Pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, dira Jésus. Encore Pierre qui dira qu'ils voient votre bonne conduite et qu'ils soient confondus. Ceux qui peut-être s'opposent à vous, se posent des questions, peut-être vous rejettent, etc. Que votre bonne conduite, l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la fidélité, la patience, la bienveillance, etc., que ces choses-là soient vraiment notre témoignage, que notre témoignage laisse une trace parmi les gens autour de nous. Dieu attend de chacun de nous tout cela. Dieu n'attend pas moins, il attend ce fruit de l'Esprit. Il attend cette croissance dans chacun de ces fruits de notre part. Nous parlons ce matin de notre dernier thème et j'ai choisi le dernier point de Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Self-control. Dans les 9 aspects du fruit, on peut dire que c'est le fruit ou c'est les fruits. Finalement, peu importe. L'important, c'est qu'il y ait du résultat dans quelque chose qui émerge, que ce soit un fruit ou que ce soit un fruit sous différents aspects ou que ce soit 9 fruits différents. Finalement, ils se rejoignent tout de même. Et ce que j'aime, c'est que autant le premier aspect, c'est l'amour, qui est vraiment cet amour qui est d'abord versé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et quand je suis d'abord servi par le Seigneur valablement, je peux donner, n'est-ce pas? Je suis plus vide, je ne suis plus au bout du rouleau, démuni de tout. Mais lorsque je suis rempli et je me laisse remplir dès le matin, et lorsque je m'endors la nuit, je laisse remplir de l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors je peux commencer à aimer. L'amour, c'est le premier fruit qui est mentionné, qui ouvre la série. Et la maîtrise de soi noue la gerbe à la fin, car la maîtrise de soi, si on prend dans le contexte de Galates 5, où il est question de cette lutte entre la chair et l'esprit, cette lutte contre le péché, la maîtrise de soi est tout à fait essentielle pour limiter l'action destructrice du péché. La maîtrise de soi limite l'action et l'étendue du péché tellement décrite dans Galates chapitre 5. Et pour cela, j'ai besoin, nous avons besoin de toute la puissance du Saint-Esprit. C'est bien le fruit de l'Esprit. Lui seul, au travers de nous, par la maîtrise de soi, entre autres, va limiter l'étendue et l'action du péché qui parfois est comme un feu de brousse. Vous imaginez que si on ne se maîtrise pas, si une personne ne se maîtrise pas, si un groupe ne se maîtrise pas, si un peuple ou un pays ne se maîtrise pas, eh bien, l'envergure du péché va être désastreuse. C'est là l'origine des guerres d'ailleurs. C'est qu'on reste sur ses positions, on ne se maîtrise pas et on laisse libre cours à la vengeance, la haine, la force, la violence, etc. C'est une vertu essentielle. Et voyez-vous, ce n'est pas seulement la foi chrétienne qui met cette vertu en avant et qui en parle, mais d'ailleurs toutes les philosophies et toutes les religions du monde parlent de cette vertu de la maîtrise de soi. Toutes les religions la prennent au sérieux. C'est comme une vertu cardinale, une vertu importante qui déjà était très recherchée par les philosophes de l'Antiquité, que ce soit Platon, Aristote ou les autres. Et aujourd'hui, elle est exigée par le monde. Lorsque votre employeur attend quelque chose de vous, il attend une maîtrise. D'ailleurs, on demande un diplôme de maîtrise ou de master. Hein, c'est quand même pas anodin ce qui est demandé. Il y a des exigences, il y a une maîtrise de notre sujet, une maîtrise de notre profession, de nos capacités, une maîtrise de nos compétences qui est attendue à des degrés très élevés aujourd'hui. Et Paul va dire, je ne vous parle pas aujourd'hui de profession, Paul nous dit, le Seigneur nous dit, je te parle de toi, de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Car la maîtrise de soi doit toucher le corps, l'âme et l'esprit. Les trois domaines sont à être passés au scanner du Seigneur pour être examinés et pour qu'elles soient vraiment soumises à la maîtrise de l'esprit. La maîtrise de soi n'est pas quelque chose de populaire. Je ne vous parle d'un sujet très populaire aujourd'hui. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul va donner son témoignage, emprisonné à Césarée devant le gouverneur Félix, qui est avec sa femme très intéressée par la foi, l'apôtre Paul va commencer à parler, et l'Écriture nous dit qu'il va parler de la justice, il va parler des jugements à venir, et de la maîtrise de soi. Et Félix va dire, attends, tu me parleras de ça une autre fois. Et il est parti. C'était pas très populaire de parler de la maîtrise de soi, et je pense qu'aujourd'hui, où on dit plutôt, lâche-toi, vis ta vie, fais ce qui te plaît, parle comme tu veux, agis comme tu veux, eh bien, nous subissons comme un raz-de-marée de toutes ces personnes qui sont quelque part entraînées, habituées, encouragées, non pas à se maîtriser, mais plutôt à lâcher les barrages et à déverser sur son voisin, sur n'importe qui, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on veut dans les paroles, les actes, etc. Frères et sœurs, ce n'est pas ainsi que la parole de Dieu parle. Elle ne dit pas « lâche tout, ouvre toutes tes vannes et vas-y ». Peu importe ce que ça fait comme conséquence, elle nous demande clairement la maîtrise de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps se taire, tout garder pour soi, tout rester à l'intérieur et puis finalement croupir dans quelque chose qui va nous infecter, nous décourager, nous décevoir et causer de gros problèmes intérieurs. Ce n'est pas ça non plus qui est dit, mais nous ne pouvons pas échapper à l'exhortation biblique qui s'appelle la maîtrise de soi dans tous les domaines. Qu'est-ce que cela veut dire ? La maîtrise de soi, le mot enkrates en grec, je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus, mais très intéressant de dire que finalement la racine du mot, c'est la force. Krates, c'est force, puissance. C'est être fort pour se contrôler. Le Saint-Esprit veut te donner sa force pour que tu puisses te contrôler. Pas contrôler ton voisin, mais te contrôler toi. C'est donc la tempérance, le contrôle de soi-même, celui qui a la force en lui-même, qui se contient et se domine. C'est la vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions, en particulier les appétits des sens. Nous avons tous des sens, et c'est bien, mais nous sommes appelés à les contrôler. Nous sommes appelés non pas à nous laisser dominer par eux, mais à dominer sur eux, car celui qui se maîtrise règne et n'est pas dominé ni asservi. L'apôtre Paul va dire « Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit ». Est-ce qu'on veut dire ça peut-être ensemble ce matin comme une première déclaration ? Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et peut-être que ce matin tu réalises que quand même, au fond de ton cœur et toi seul tu le sais, tu es asservi par quelque chose. Il y a quelque chose qui te domine quand même dans les sens que tu n'arrives pas à maîtriser ou que tu ne veux pas maîtriser. Aujourd'hui, écoute la voix de Dieu. Aujourd'hui, écoute le Saint-Esprit. Car le Seigneur ne veut pas nous condamner, mais nous aider à vivre une vie qui le glorifie et non pas une vie charnelle qui nous pose problème et qui pose problème aux autres. Le Saint-Esprit en moi me donne la force. En krates, dans la force en moi pour me contrôler, pour me maîtriser, c'est ça que le Seigneur veut. La Bible parle souvent aussi de son contraire, du contraire de la maîtrise de soi, le manque de contrôle, la perte de contrôle, qui est tellement constatée aujourd'hui dans tant de domaines, une perte de contrôle dans le monde, dans les affaires, etc. 2 Timothée 3:3, sache que dans les derniers temps, surgiront des temps difficiles, les hommes seront insensibles, implacables, etc. Ensuite, il est marqué « sans frein ». C'est le mot « akrates », qui veut dire « sans force ».« Sans frein », donc qui sont incontrôlables, les gens seront incontrôlables. Et le verset 4 nous dit carrément qu'ils seront impulsifs, emportés, donc impuissants pour régner sur eux-mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase que j'ai marquée ? On a tous au moins un domaine de la vie où on manque de maîtrise de soi. C'est un domaine qui nous concerne tous, sans exception. Bien sûr, bien sûr. Car nous avons tous quelque part, un jour ou l'autre, peut-être qu'aujourd'hui on a des grandes victoires, on peut dire « Le Seigneur m'a délivré, j'ai la victoire. Autrefois j'étais comme ceci, je faisais cela, maintenant c'est changé. » Mais parlons des péchés mignons, comme on dit, de la langue, des réactions vives, de l'impatience. Vous savez qu'au volant de la voiture se développent toutes sortes de réactions. C'est là que vous allez mesurer, peut-être les hommes plus que les femmes encore, comment se situe votre maîtrise de vous-même dans les bouchons à Genève et ailleurs. La maîtrise de soi sur les dépenses d'argent, domaine très important. Très important. Est-ce que c'est vous qui dominez vos dépenses d'argent ou c'est les dépenses d'argent qui vous dominent ? le manger. La parole de Dieu en parle. On va tout à l'heure toucher le sujet en fin de message. L'alcool. Et puis quand on entend des témoignages, des personnes qui se confient et disent « Mais non, mais je gère Je gère, il n'y a pas de problème !» Ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent à leur entourage, parce qu'en réalité, ils croient gérer, mais ils ne gèrent plus rien du tout, c'est l'alcool qui les gère. C'est les passions mauvaises qui ont pris insidieusement. Ça commence tout petit et ça grandit. Ça commence tout petit. Un pasteur raconte ouvertement son témoignage en disant « Pour faire face à la lourdeur de ma tâche, pour faire face aux frustrations, je rentrais chez moi après des longues journées de travail, de visites et de toutes sortes, et je m'asseyais dans le fauteuil, je me versais un jus d'orange et je mettrais une bonne goutte de whisky avec. » Et ainsi, il se détendait, il commençait à être joyeux et détendu, et puis il passait sa soirée comme ça, et puis un deuxième, et puis il gérait. Mais avec le temps, le whisky est devenu indispensable pour s'ajouter à son jus d'orange. Et pour finir, alors que sa défense devenait de plus en plus faible, son moyen de défense et sa volonté s'affaiblissaient sans qu'il se rende compte, pour finir, il était piégé. Je vais arrêter là ce témoignage, ce n'est pas à moi de le donner, mais vous pouvez lire des livres là-dessus. Frères et sœurs, il y a toutes sortes de domaines dans lesquels nous avons besoin de nous maîtriser. Manger, alcool, sexualité, l'utilisation d'Internet, etc., etc. Il y a des choses aujourd'hui, mille et une tentations et possibilités de nous piéger. Nous avons besoin de maîtriser un tas de domaines. Que le Seigneur nous aide à ce que le fruit de l'Esprit, connecté au Seigneur, cette force de Dieu vient en moi pour pouvoir dire non à certaines choses, pour pouvoir dire stop à certaines choses, pour ne pas rompre l'équilibre et que toute chose reste sous contrôle. Nous ne sommes pas préprogrammés selon un instinct, mais nous sommes libres et responsables de nos choix. Frères et sœurs, cette phrase est essentielle. Elle est parfaitement biblique. Le Seigneur nous considère, quel que soit notre parcours, quels que soient nos antécédents, quels que soient nos points forts ou nos points faibles, quelles que soient nos positions où nous avons été victimes de quelque chose, nous avons besoin de la compassion et d'être aidés, d'être compris et d'être écoutés, c'est clair. Toutefois, nous restons responsables de nos actions et de nos choix. On ne peut pas dire « je n'ai pas eu de chance, j'ai été maltraité, donc je vais maltraiter les autres ». On m'a fait violence, c'est pourquoi je suis violent. J'ai été abusé, voilà pourquoi je manipule les autres. On ne peut pas simplement s'excuser de ce que l'on a subi pour faire subir cela aux autres. La maîtrise de soi est absolument essentielle. Les excuses se trouvent facilement, et certains rigolent de cela. Parfois, on peut même carrément entendre des personnes crâner rigoler de leurs exploits hors de la maîtrise d'eux-mêmes, d'autres en pleurent. Et puis, on dit aujourd'hui, mais oui, il faut l'excuser, il est comme ça. Il a pété les plombs, mais il faut l'excuser, il faut le comprendre, c'est un sanguin. Sa nature est colérique, il est comme ça, il faut le prendre comme il est. Ah, il vient d'un pays du Sud, il a le sang chaud. Ou de telles régions où on réagit au quart de tour. Si certaines régions sont connues pour être des personnes qui, si on les touche, tac, il y a une réaction immédiate. C'est comme cela. Mais le Seigneur aussi nous dit, peu importe du royaume duquel tu viens, de la région de laquelle tu viens, tu appartiens maintenant à mon royaume et c'est mes lois qui doivent s'implanter dans ton cœur. Jacques et Jean étaient aussi des gens au sang chaud. Jacques et Jean étaient les fils du tonnerre, des impulsifs et des colériques. Pierre également, un petit peu. Il voulait faire descendre le feu du ciel sur les villes. Et puis ils sont devenus des apôtres du Seigneur, transformés à l'image de Christ, remplis du fruit de l'Esprit. Non, il n'est pas juste que, campant sur ses excuses, je suis comme ça. Déjà, mon père était comme ça. mon grand-père était comme ça ou ma grand-mère était déjà comme ça. Non, il faut arrêter de faire souffrir les autres parce que nos parents ou ancêtres étaient comme cela. Ce trait de caractère qui fait souffrir doit être arrêté, amené à la croix et remplacé par le fruit de l'esprit. Est-ce qu'on peut encore dire amen ? Vous êtes avec moi. Non, je ne veux pas laisser libre cours à ma chair, à ses pulsions et ses envies, car la société qui accepte cela deviendra ingérable et anarchique, désordonnée, sans sécurité et sans paix. La réalité, avons-nous vraiment envie de changer ? Avons-nous vraiment envie d'empoigner le taureau par les cornes ? Est-ce que nous avons envie que certaines choses que nous sommes seuls à connaître, que nous ne gérons pas, que nous ne contrôlons pas, mais qui nous contrôlent, est-ce que nous sommes d'accord de confronter cela aujourd'hui devant le Seigneur ? Le Seigneur va d'abord mettre sa lumière. Il faut qu'on soit d'accord de répondre, de dire « Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon et aujourd'hui je veux changer. » Avec ta force, avec ton aide, avec la puissance de Dieu qui viendra briser les liens, quelle que soit l'origine de ces liens, la puissance de Dieu peut briser et dénouer les liens, veut vous faire sortir de votre prison dans laquelle vous souffrez, dans la solitude peut-être. J'aimerais prendre maintenant deux exemples qui vont nous parler d'une manière négative, qui vont nous parler pour nous enseigner comment deux personnes ont finalement été incapables de se maîtriser. D'abord, l'histoire de Caïn. Étonnant de voir qu'au début de l'histoire de l'humanité déjà, il y avait ce problème, cette rivalité entre ces deux frères, cette rivalité qui a généré un problème spirituel. Caïn, il a vu que son frère était plus béni que lui n'avait pas part à cette bénédiction de Dieu. Il sentait que Dieu, la relation avec Dieu, ce n'était pas pareil. Et une jalousie s'est installée. Un conflit intérieur, une incompréhension se passait en lui. Et le Seigneur va venir à sa rencontre avec une question. Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? C'était pour susciter un dialogue avec Caïn, pour susciter... pour lui offrir la possibilité de s'exprimer. Et le Seigneur va lui donner cette image très intéressante. Il va lui dire, le mal est couché à ta porte. Et le texte hébreu dit clairement, le mal est tapis à ta porte, couché comme une bête féroce qui attend juste que tu lui ouvres la porte pour te dévorer. C'est ça que ça veut dire. Le mal est couché à ta porte. Le péché est couché à sa porte, ses désirs se portent sur toi, mais toi domines sur lui. Le Seigneur n'enlève pas l'épreuve à Caïn, mais vient à son aide au milieu de son conflit, au milieu de cette tension intérieure dans laquelle il se trouve. Il ne sait pas ce qu'il faut faire, il est en train de laisser entrer en lui non seulement la jalousie, mais déjà la haine, déjà la colère, et il est en train déjà d'ouvrir la porte à des forces plus grandes que les siennes pour s'avancer vers le meurtre de son frère. Et le Seigneur vient le rencontrer là, dans cette période critique, dans ce moment décisif, pour lui dire « Domine, domine ». Il n'est pas venu dire « Attends, bouge pas, Caïn, je vais t'enlever cette bête féroce, je vais juste, moi, la tuer, puis comme ça, t'es libéré ». Le Seigneur n'a pas fait ça. Il lui a demandé de vaincre. Il lui a demandé de prendre autorité, il lui a demandé de dominer, il lui a demandé de se maîtriser. Le Seigneur n'enlève pas tous les obstacles devant nous, mais il nous donne la force pour dominer, pour vaincre. C'est ça qu'il a demandé à Caïn. Caïn doit faire un choix, il doit apprendre à se maîtriser. Il aurait pu dire « Seigneur, au secours, j'en peux plus, aide-moi, je ne comprends pas ». Il aurait pu dire cela. Mais au lieu de cela, il est resté bloqué dans sa caverne, il est resté bloqué dans ses pensées, il a refusé de dialoguer, il a refusé de dominer sur cette bête féroce, ce péché qui commence à entrer en lui. Il a finalement ouvert la porte et il s'en est allé vers un acte irréparable. C'est une école nécessaire, dominer sur lui. Regardez ce verset du Proverbe 25, verset 28. « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est un homme qui n'est pas maître de lui. » Relisez bien ce verset. « Une ville qui a perdu ses murailles, une ville dont les murailles sont écroulées, dont les portes sont ouvertes, ainsi ressemble la vie, le cœur d'une personne qui n'est plus maître d'elle-même. » Ça veut dire, si on ne se contrôle pas, il y a comme une protection qui s'en va, d'accord ? Il y a une protection qui s'en va. Il y a une protection, une chute des murailles, il y a une protection, et lorsque la protection est partie, tout peut s'engouffrer. Voilà pourquoi, si on ne se maîtrise pas, à un moment donné, les choses vont aller de l'avant. Le mal va entrer de plus en plus par les murailles cassées, par les portes qui s'ouvrent, et il va s'engouffrer, prendre possession de mon cœur et me vaincre complètement. Comme une ville forcée et sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui. L'histoire de Caïn. L'histoire de Samson est un deuxième exemple intéressant. Le texte se situe dans Juges, chapitre 14, 15 et 16. Si nous pouvons comparer Caïn à l'homme charnel qui n'a pas l'Esprit de Dieu, et pourtant Dieu lui demande de se dominer, il n'a pas l'Esprit de Dieu, mais pourtant Dieu lui demande de se dominer, nous avons Samson qui a l'Esprit de Dieu et qui est fort par l'Esprit de Dieu et qui en même temps a sa nature charnelle. Il a les deux natures en lui. Tantôt spirituel et fort vainqueur sur l'adversaire, mais il a nourri, et c'est ça le mot-clé, il a nourri les côtés charnels en lui, les envies, les pulsions et les passions, il les a laissées sans les dominer, plutôt il les a nourries, il les a cultivées, il leur a laissé des portes ouvertes, et c'est dans ce domaine qu'il a été piégé par l'adversaire. Exactement dans ce domaine. Ce n'est pas dans le domaine de l'esprit, parce qu'il était inattaquable. Il était plus fort que tous dans sa nature spirituelle soumise à l'Esprit de Dieu. Mais dans sa nature charnelle, il avait ce penchant pour les femmes et cette fragilité, cette faiblesse, cette attirance permanente qu'il n'a pas maîtrisée, mais qu'il a alimentée. Lisez attentivement les textes, le nombre de femmes qu'il a eues finalement, pour finalement être vaincu complètement par cela. Il a été lié, il a été fatigué. Vous le trouverez à un moment donné endormi sur les genoux d'une femme. Endormi, son âme est endormie, son esprit est endormi. Et le signe de sa force, c'était son naziréa, c'était ses cheveux longs, c'était le signe de sa consécration. À un moment donné, on va lui enlever cela, ce signe, mais avant de se faire couper les cheveux, c'est qu'un détail finalement. Mais c'était la dernière étape de la rupture de l'alliance dans laquelle il était. Il avait déjà attristé le Saint-Esprit plusieurs fois. Il n'avait pas écouté. Il est allé de l'avant un pas après l'autre pour finalement être vaincu et finalement être esclave de l'adversaire. Il a refusé, écoutez bien ceci, il a refusé que le Saint-Esprit contrôle toute sa vie. Ce matin, le Seigneur nous pose la question. Le Saint-Esprit contrôle votre vie, oui. Beaucoup d'aspects de votre vie, mais il y a peut-être le domaine ou les deux ou trois domaines de votre vie, de ma vie. Est-ce que ces domaines difficiles, délicats, est-ce que nous sommes d'accord que le Saint-Esprit les contrôle également ? C'est la question qui est posée ce matin. Romains 8 nous dit « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Si tu vis en étant alimenté par la chair, tu vas de plus en plus être attiré par ces choses. Si tu regardes certaines choses qu'il ne faudrait pas, tu vas de plus en plus avoir envie de ça. Si tu parles de choses qu'il ne faudrait pas, tu vas de plus en plus... On est comme engouffré dans quelque chose qui finalement, nous pensons les maîtriser, mais en fait, peu à peu, c'est eux qui nous maîtrisent, c'est eux qui nous dominent et qui nous mènent par le bout du nez. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. La Bible dit, et ce n'est pas trop fort, l'affection de la chair, c'est la mort. Nous disons, mais non, ce n'est pas grave. Je vais maîtriser tout ça, je vais gérer tout ça. Je vais arrêter un jour. L'affection de la chair, c'est la mort. Frères et sœurs, des fois, il faut qu'on se brûle vraiment les doigts, comme il faut, pour arrêter une chose. Il faut vraiment que ça fasse mal, parce que Dieu, dans son amour, permet cela pour qu'enfin on arrête, pour ne pas qu'on aille dans la mort éternelle. Il vaut mieux que tu partes dans l'éternité avec Dieu, avec un œil et un bras en moins, plutôt que tu sois complet, mais que tu partes en enfer à cause d'un manque de maîtrise de soi, à cause du péché qui t'a lié et qui fait de toi un candidat pour la mort éternelle. Frères et sœurs, c'est important. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, 5 et 6. Frères et sœurs, nous avons besoin de nous maîtriser. Deux promesses encore. L'insensé met en dehors toutes ses passions, mais le sage les contient. Bien sûr, nous pouvons être passionnés pour des bonnes choses, ce n'est pas un problème. Mais les passions problématiques, les passions qui nous poussent vers des choses qui ne sont pas bonnes, eh bien, lorsqu'on les extériorise, lorsqu'on leur donne libre cours, eh bien, nous sommes considérés comme insensés, car notre voie, notre vie s'en va vers des gros, gros problèmes. Il faut contrôler. Vous savez que même dans la mécanique automobile, il y a ce qu'on appelle des moteurs bridés. Ceux qui sont versés en auto savent ça. Les moteurs bridés, qu'est-ce que c'est ? C'est un moteur qui est puissant. Il a une puissance incroyable. Mais on va le brider, on va l'étrangler dans l'admission des gaz, etc., pour que même s'il garde toute sa puissance, il faut qu'il ait moins de puissance, il faut qu'il soit contrôlable. Sinon, ma vitesse et ma puissance risquent de faire des dégâts. Selon le chauffeur, bien sûr. Hein? Selon le chauffeur. Donc, nous devons également rester dans notre corps, dans nos pensées et dans notre esprit, des êtres sous le contrôle du Saint-Esprit. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Vous savez, la Bible dit dans ce texte des Proverbes 16, 32, que la maîtrise de soi, c'est régner à l'intérieur. Régner à l'intérieur vaut mieux que régner à l'extérieur. Si tu es capable de prendre des villes, c'est bien. Mais si tu te contrôles toi-même, c'est mieux. Celui qui est maître de lui-même contrôle l'intérieur. Et si tu contrôles l'intérieur, tu es aussi capable d'être vainqueur à l'extérieur. En résumé, nous sommes comme une maison où on peut ouvrir et fermer des portes. J'ouvre ma porte au Seigneur, j'ouvre ma porte aux autres, j'ouvre mes fenêtres vers l'autre, vers mon prochain, mais je ferme mes volets, je ferme mes portes, je ferme mes fenêtres à tout ce qui veut me maîtriser, tout ce qui veut me contrôler. Tout ce qui est mal, tout ce qui n'est pas approuvé par le Seigneur, je dois veiller à ouvrir ou fermer les portes pour les bonnes choses. Maintenant, un bon exemple, c'est celui de 1 Corinthiens 9, où l'apôtre Paul, on peut lire ce texte, 1 Corinthiens 9, où l'apôtre Paul va comparer le chrétien à un athlète, en fait même à un lutteur. Il dira au verset 25, « Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. » Et là, on trouve le mot « enkratès », donc la maîtrise de soi. Il va se maîtriser, il va avoir la force, donc dans la force, il va se maîtriser. Eux, pour recevoir une couronne corruptible, nous, pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours, non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. La maîtrise de soi est une très bonne chose, mais elle doit s'apprendre. Elle doit s'apprendre. L'apôtre Paul va utiliser l'image du sport. Vous avez regardé peut-être les JO à Londres. Vous avez vu tous ces athlètes dans toutes ces disciplines. Combien ils ont travaillé durement pendant des années, jour après jour, sans se relâcher, pour obtenir une médaille, pour avoir un résultat, pour être peut-être connu ou vu, ou pour avoir un défi personnel, que sais-je. Mais le sport a été de tout temps vraiment la vertu principale de la maîtrise du corps, la maîtrise de soi, la maîtrise de sa discipline, des heures de privation, de discipline, parfois de souffrance, pour pouvoir arriver à la couronne. L'athlète nous apprend que la discipline doit s'apprendre par l'exercice. Et j'aimerais vous encourager, chers parents, apprenez l'exercice de la discipline à vos enfants le plus tôt possible. Je n'ai pas dit qu'il faut dresser nos enfants. Nous ne sommes pas dans un cirque pour dresser nos enfants, non. Nous ne sommes pas dans un monde, peut-être comme à certaines époques, l'enfant ne comptait pour rien et était tout simplement mené à la trique. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans un monde difficile, mais j'aimerais vous encourager, Bible en main, que nos enfants apprennent la discipline. Le sport est une bonne aide, n'est-ce pas ? Apprendre ou encourager l'enfant à faire du sport est une bonne chose. Apprendre à l'enfant un instrument de musique est une très bonne chose aussi, car encourage la maîtrise de soi, encourage la discipline personnelle. Le corps doit apprendre à se soumettre. Je relis avec vous le verset 27 de 1 Corinthiens 9. L'apôtre Paul va dire « L'athlète se discipline à fond parce qu'il veut obtenir la couronne. » Et l'apôtre Paul va dire « Moi, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, je le tiens esclave. » Et lorsqu'il est dit « Je traite durement mon corps », le terme grec veut dire « C'est une lutte, c'est un combat de boxe. » C'est un combat où on tape l'autre en pleine figure. On le tape jusqu'à ce qu'il perde la sensibilité, carrément. C'est un combat acharné, rude. Je me donne des coups. Je suis dur avec moi-même, c'est ça que ça veut dire. Je suis très dur avec moi-même parce que, dit-il, je sais où l'indiscipline, où le manque de maîtrise peut mener. L'apôtre Paul connaît tellement l'envergure de son mandat, connaît tellement la destinée en tant qu'apôtre du Seigneur, défricheur, implanteur d'église. Et c'est tellement l'importance de rester dans la volonté de Dieu que s'il y a un écart, il sera perdu. Et il sait que l'ennemi va le viser continuellement. Il connaît les manœuvres de l'ennemi. Il connaît les stratégies de l'ennemi. Il dit, je tiens mon corps, non pas juste un peu, mais je le traite durement, je le tiens vraiment. Je ne lui permets aucun écart. De peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs, je crois que c'est important qu'on ait aussi cet aspect de la dureté, parce que quand il est dit « crucifiez votre chair », c'est pas « viens, je vais te mettre à la croix avec un petit coussin, et puis pas que tu aies trop mal, et puis on va te ménager ». Crucifier, c'est horrible. La croix, c'est pas quelque chose de gentil. La croix, C'est une torture, la croix c'est une mise à mort, rien d'autre. C'est une mise à mort dans les souffrances. Et crucifier la chair, ce sont des mots tranchants, violents et durs qui sont pourtant utilisés régulièrement par l'apôtre Paul, et je les rappelle aussi ce matin. C'est une lutte au quotidien. Mais le dernier point, j'aime beaucoup, la discipline de l'athlète va s'exercer parce qu'il a en vue un but, frères et sœurs. Nous ne nous disciplinons pas pour rien, parce que la Bible le demande. Nous devons nous maîtriser, nous contrôler, parce qu'il y a un but, la couronne incorruptible. Il y a les récompenses. Il y a tout ce qui nous attend, qui est préparé par le Seigneur pour des gens qui arrivent au but. Ne perdons jamais de vue le but extraordinaire. Et que ce but extraordinaire nous aide à gagner, à mener le bon combat de la foi, à obtenir, pour finir, la couronne. Frères et sœurs, la discipline n'est jamais vaine. La maîtrise de soi n'est jamais vaine, parce qu'il y a une grande récompense à la fin. Il y a peut-être des choses à régler, et ça va coûter quelque chose. Ça va coûter quelque chose de se priver de certaines choses qui sont ma fragilité, qui sont mon point faible. Et il faut que je les traite, il faut que je m'en sépare. Il faut que je m'en sépare. Mais c'est en vue de l'éternité avec le Seigneur. C'est en vue de ne pas perdre la récompense. C'est en vue de gagner la course de la foi. Amen. Nous sommes toujours là et j'aimerais prendre maintenant le dernier point. Voilà, l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, « Faites tous vos efforts pour joindre à la vertu la science ou la connaissance, à la science la tempérance, donc la maîtrise de soi, etc. Car si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. » Le terme que je voudrais relever ici, faites tous vos efforts. Même si c'est le fruit de l'Esprit, que c'est l'Esprit qui le fait, nous avons à faire un effort. Nous avons à participer à l'œuvre du Seigneur. Cela reste un choix personnel. Cela reste un choix volontaire. Je me souviens lorsque l'armée, qui est le terrain par excellence de la discipline, le terrain de la discipline, eh bien, parce qu'on est obligé de l'être. Et puis, je me souviens de certaines bandes d'amis qui étaient, des certaines recrues qui étaient avec moi. Alors, lorsqu'il y avait les sorties, c'était l'autre extrême. Dans la journée, ils étaient disciplinés, garde à vous, etc., dans les manœuvres à faire. Mais alors, dans les sorties, c'est complètement le contraire. On se lâchait tellement qu'on n'arrivait plus à se réveiller le lendemain matin, tellement qu'on avait été indiscipliné. Donc, la discipline volontaire peut basculer de l'autre côté, et puis on se lâche complètement. Ou bien, voilà, on peut prendre d'autres exemples qui me viennent, mais je ne vais pas les dire, faute de temps ou de peut-être, je ne voudrais pas déborder le sujet. Mais le Seigneur veut nous dire par là, aujourd'hui, personne ne te force à la discipline, toi-même, discipline-toi volontairement par un choix personnel. L'aide de Dieu nous est assurée pour maîtriser notre langue, pour maîtriser la nourriture, pour maîtriser nos pulsions. On pourrait développer chaque point, mais l'apôtre Paul nous dit que si nous maîtrisons notre langue, nous ne bronchons pas. C'est une discipline extrêmement importante. Discipliner la nourriture est également très importante parce qu'il est dit que l'ivrognerie, les excès de table, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est une parole aussi très claire. 1 Pierre 4, 3 nous dit aussi, « Après avoir autrefois, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, l'ivrognerie, les excès de table, du boire, etc., aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement ?» Eh bien, le remède pour maîtriser la nourriture, c'est le jeûne. C'est le jeûne. C'est une bonne formule pour aider à contrôler notre nourriture. C'est un exercice parmi d'autres. Maîtriser ses pulsions, entre autres sa sexualité, cela aussi la parole de Dieu en parle. Je ne vais pas entrer en matière là-dedans maintenant. Ma conclusion, simplement rappeler. Pensons aux conséquences du manque de maîtrise de soi. Pour une conséquence, que ce soit David et Bathsheba, pour une conséquence si grave, d'un manque de discipline, d'un manque de maîtrise, que de souffrances, que de problèmes ont été endurés par David et d'autres. Nous avons besoin de réaliser que les conséquences de nos inconséquences peuvent être dramatiques et être des conséquences à long terme qui peuvent nous empoisonner la vie et poser problème. Frères et sœurs, il vaut mieux dire oui à la maîtrise de soi aujourd'hui. Cessons de dire « c'est plus fort que moi, j'en peux rien ». Prenons position, décidons, soyons d'accord de changer et de grandes victoires nous seront assurées. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que je peux vous demander de vous lever pour la prière, s'il vous plaît ? Merci de m'avoir suivi dans ce parcours, dans cette étude sur la maîtrise de soi. Seigneur, je te prie ce matin avec mes frères et sœurs. Seigneur, nous avons parlé de ta parole ce matin et je te demande, Saint-Esprit, maintenant que tu viennes toucher les cœurs. Seigneur, je t'ai prié que réellement il y ait une révélation ce matin, qu'il y ait l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. Je te remercie. Seigneur, je te confie cette parole, je te confie ces textes bibliques, Seigneur. Je te demande qu'ils prennent vie dans les cœurs et dans les situations précises maintenant. Je te remercie, Seigneur, de ce que plusieurs peuvent se situer ce matin, car ta parole est claire, elle est lumière, elle jette une lumière sur nous-mêmes. Seigneur, elle nous sonde, Seigneur, elle nous sonde corps, âme et esprit. Seigneur, je te remercie de ce que au niveau du corps, nous avons à nous maîtriser. Au niveau de l'âme, et Seigneur, de tout ce qui va avec, nous avons à nous maîtriser. Au niveau de la vie spirituelle, nous avons également à nous discipliner, à nous maîtriser et à nous contrôler. Seigneur, merci de ce que nous pouvons dire ce matin. Je t'abandonne tout contrôle, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, nous voulons que l'Esprit, Seigneur, nous enseigne le contrôle de nous-mêmes et que ce soit lui qui règne sur notre vie. Alléluia. Est-ce que nous voulons ce matin prendre position et dire, Seigneur, j'accepte que non pas comme Samson qui était bien spirituel, mais pour un domaine précis, il ne voulait pas le contrôle de l'Esprit. Ce matin, j'abandonne le domaine où j'ai un problème, Seigneur. Je t'abandonne ce problème, Seigneur. Je t'abandonne ce domaine où je ne maîtrise pas, où je veux garder le contrôle, mais je n'y arrive pas, Seigneur. Je te l'abandonne pour que tu puisses me secourir, me délivrer au nom de Jésus. Alléluia. Si quelqu'un a besoin de cette libération, de cette délivrance, criez au Seigneur un instant. Priez. Priez le Seigneur et dites-lui de ce qui se passe, là où vous avez besoin. Nous disons au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ce domaine précis. Seigneur, où ça ne va pas, où ça ne te glorifie pas, où ça ne marche pas, où je retombe à chaque fois. Seigneur, je te remercie de me donner cette discipline, cette maîtrise, ce contrôle sur moi-même, cette force qui vient de toi pour garder le contrôle sur mes pulsions, mes passions et mes envies. Seigneur, merci pour ton aide. Dans le nom de Jésus.